RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Dans Grand Reportage, aujourd'hui, nous allons ouvrir une page d'histoire. 3 ans, 8 mois et 20 jours, c'est le temps qu'a duré le régime Khmer Rouge. Régime qui s'est rendu coupable de crimes contre l'humanité et de génocide à l'encontre des minorités vietnamiennes et musulmanes Cham. C'est ce qu'ont conclu en novembre dernier les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, utilisant pour la première fois la qualification de génocide. Entre 1975 et 1979, environ 2 millions de Cambodgiens ont perdu la vie. Terrassés par la faim, épuisés par les conditions de travail imposées au nom de la révolution paysanne de Pol Pot, les Cambodgiens ayant servi le régime précédent furent tués en masse, ainsi que les personnes éduquées, les intellectuels ou ceux qui étaient considérés comme des ennemis de l'intérieur. D'autres furent exécutés pour avoir simplement volé du manioc. 40 ans après la chute du régime, face à l'armée vietnamienne, le 7 janvier 1979, le sujet est encore sensible, mais des langues se sont déliées en public ou en privé. Alors que les témoins s'éteignent peu à peu, la nouvelle génération, celle qui n'a pas connu les atrocités du régime ni même la guerre civile, se trouve au centre des enjeux pour que ce pan de l'histoire reste connu au-delà des manuels scolaires. Khmer Rouge, la mémoire en construction, c'est un grand reportage de Juliette Buchez, réalisation Pierre Chaffanjon.
À quelques kilomètres de Phnom Penh, Sok Chanta essuie une larme avec son krama. Le krama, c'est cette étole en coton à carreaux traditionnellement portée au Cambodge. Sok Chanta a 67 ans et le récit de son histoire à travers les années du régime Khmer Rouge est encore difficile. 40 ans après la chute du Kampuchea démocratique, elle se souvient toujours de l'arrivée des troupes vietnamiennes en 1979 et de la frénésie meurtrière qui s'empare des Khmer Rouges dans son camp.
J'étais au courant de la libération, pourtant j'ai continué à travailler. À ce moment-là, un des cadres Khmer Rouges que je connaissais et qui était plutôt gentil m'a dit, à moi et à mon ami, « Retournez auprès de vos deux enfants, allez les nourrir et prenez votre temps. » Alors nous sommes allés allaiter nos enfants un moment, et puis mon ami et moi, nous sommes repartis, il fallait retourner travailler. Mais alors qu'on était en chemin, je me suis retournée et j'ai vu les soldats attacher et abattre les villageois à côté de la mare. J'ai vu ça de mes propres yeux. Je n'ai rien dit et je suis partie. Oui, j'ai couru.
Sok Chanta le sait, ce jour-là, elle a été sauvée par le cadre Khmer Rouge qui l'a envoyé nourrir son fils, qui approche aujourd'hui la 50aine d'années. Des histoires, les survivants en ont tous. Mais pour beaucoup, elles sont longtemps restées dans le silence. Sok Chanta dit avoir déjà partagé son histoire avec son fils notamment, mais ce jour-là, à côté de la cuisinière, Sraimom, sa jeune collègue de 18 ans, écoute. Et c'est la première fois qu'elle entend son histoire.
J'avais peur et j'ai voulu pleurer avec elle.
Sraimom est orpheline et a une connaissance limitée du régime du Kampuchea démocratique. C'est dans un film qu'elle en a découvert l'existence.
Les jeunes aussi sont au courant de cette histoire, mais pas suffisamment. Il n'y a pas assez de gens qui leur racontent. Certains connaissent l'histoire, mais pas dans les détails, comme nous qui avons traversé cette période.
Pour rendre justice aux victimes d'abord, mais aussi pour que des témoignages soient reconnus dans l'histoire, les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens sont créées en 2006 avec l'appui des Nations Unies. Consciente de l'importance des témoignages enregistrés, Thierry Seng est la première à se porter partie civile à l'ouverture du cas 002, celui contre Nguyen Chi et Khieu Samphan, deux hauts dirigeants Khmer Rouge. Elle a passé plusieurs mois dans une prison à la frontière vietnamienne et a perdu ses deux parents sous le régime de Pol Pot. Elle fuit ensuite vers la Thaïlande avec ses frères, avant de se réfugier aux États-Unis, où elle deviendra avocate avant de finalement retourner au Cambodge. Mais Thierry Seng fait aujourd'hui partie des victimes déçues par le tribunal.
Je l'ai soutenu parce qu'il y avait une société civile en pleine ébullition. Nous avons pu utiliser la cour pour parler à l'opinion publique de certains sujets. La réconciliation, les droits à un procès équitable, l'histoire. Pendant très longtemps, j'ai soutenu le tribunal Khmer Rouge, malgré de profondes inquiétudes au sujet de la politisation ou de la corruption. Mais selon moi, à un moment donné, les avantages n'ont pas tenu face aux inconvénients. The benefits were consumed
by the disadvantages. La question du coût revient souvent. 300 millions de dollars pour 3 condamnations, dont celle de Nguyen Chi et Khieu Samphan en novembre pourraient être les dernières.
La Chambre déclare que l'accusé Khieu Samphan s'est rendu coupable du crime de génocide par meurtre de membres des groupes Cham et vietnamiens. Des crimes contre l'humanité suivants: meurtre, extermination, déportation.
Au Cambodge, les principaux dirigeants du Kampuchea démocratique sont morts ou sont de plus en plus âgés. Le gouvernement cambodgien, quant à lui, ne veut plus de nouvelles mises en accusation, les pays donateurs non plus.
Ce n'est pas raisonnable, bien sûr, de mettre en accusation tous les Khmers rouges, de courir après tous ceux qui ont eu les mains tachées de sang pendant le régime. Ce serait plus destructeur qu'autre chose, mais juger 5 personnes, et maintenant 3, pour un peu moins d'un demi-milliard de dollars, et ça c'est bien sûr que ça n'est pas assez.
Pourtant, Daniel McLaughlin accompagne encore aujourd'hui plusieurs clients cambodgiens américains dans leur démarche auprès du tribunal Khmer Rouge. L'avocat reconnaît certaines critiques à l'encontre de la Cour, mais pour lui, l'impact des procédures et de ces témoignages dépassent le cadre légal dans lequel ils ont été recueillis.
Je pense que pour nombre de victimes, ce n'est pas la fin du cas 002 ou même du tribunal qui pour eux vont faire clôture sur cet événement qui a marqué leur vie et qui continue à marquer leur vie et la vie des générations futures. Pour nombre d'eux, le tribunal, ce n'est qu'une forme de justice ou d'histoire. Mais il y a aussi d'autres formes, des formes culturelles, des formes artistiques, des formes de liens sociaux, à travers de conversations entre sœurs ou mères et filles, où cette histoire peut continuer, peut être donnée de génération en génération, pas seulement à travers un jugement.
C'est aussi en dehors du tribunal que la transmission et la réconciliation se jouent depuis plusieurs années. Car à l'issue de la guerre, les victimes du régime et les anciens soldats, officiers ou cadres Khmer Rouge, ont dû réapprendre à se côtoyer au sein des communautés locales. Pour ouvrir le dialogue et y intégrer les plus jeunes, l'ONG Gdei Karuna a mené pendant plusieurs années un programme de médiation, notamment en milieu rural. Comme dans cette communauté à une heure de Kampot, au sud-ouest du pays, où des représentants de victimes, d'anciens Khmer Rouges et des jeunes ont accepté de nouer un dialogue pour désamorcer les tensions. On explique que dans le passé, les victimes évitaient les zones où résidaient d'anciens soldats Khmer Rouges et vice-versa. Des mariages ont parfois même été empêchés entre descendants de victimes et de soldats Khmer Rouges. Kungni a participé aux discussions organisées par Gdei Karuna. Il a pu expliquer comment il a été enrôlé à 17 ans dans l'armée Khmer Rouge, comment il s'est battu sur le front, qu'il ne quittera qu'en 1987 après avoir perdu une jambe. Pour lui, ce dialogue a eu des effets positifs sur la communauté.
Il n'y a pas eu trop de problèmes parce que les anciens cadres Khmer Rouge ont demandé pardon. Moi, ce que j'ai fait, c'était sous l'ordre de mes supérieurs. Les victimes oublient leur rancune, notamment grâce à la religion bouddhiste. Je suis très heureux que les gens posent des questions sur la vérité aux témoins vivants.
Dans le cadre de ce programme, en 2011, un stupa a été érigé avec l'accord des victimes et des anciens Khmer Rouges. Il a été financé à moitié par l'ONG, à moitié par la communauté. Des enfants jouent à proximité dans la cour de l'école attenante à la pagode. Tola a 13 ans.
On a construit ce stupa il y a longtemps pour mettre ensemble les souvenirs des victimes du régime de Pol Pot.
La fresque peinte derrière l'hôtel représente le temple aux alentours. On reconnaît même les bambous qui se trouvent toujours derrière, juste à l'orée d'une rizière. Mais sur l'image, des gens sont torturés ou exécutés au pied des grandes pousses vertes. Sur ce site, plus de 400 personnes auraient trouvé la mort. Aujourd'hui, toute la communauté est invitée à se retrouver pour certaines grandes fêtes religieuses autour de ce stupa. Nyot Bot est chef adjoint de cette commune. Il a été associé au programme de Gdei Karuna qui s'est achevé il y a plus de 4 ans.
Moi, je veux que les jeunes connaissent cette histoire. Si ces jeunes étudient et deviennent un jour des dirigeants, je veux qu'ils dirigent le pays en connaissance de cause, pour que ce régime ne se reproduise jamais. S'il existe certains documents pour les cours d'histoire, ce serait bien de les mettre à disposition de la bibliothèque.
À Phnom Penh, l'ONG se prépare justement à ouvrir un centre de documentation. Elle souhaite valoriser son expérience du dialogue entre les générations et faire tourner certains documents accumulés dans les communautés en province. Pour poursuivre le travail de documentation et la transmission des connaissances dans le Cambodge contemporain, de nouveaux outils apparaissent et le recours aux nouvelles technologies se développe. En décembre, l'entreprise Parohawk, fondée par un Américain, a été sollicitée par DCCAM, le centre de documentation du Cambodge, pour participer à un test dans une école de Prey Veng. Au Cambodge, si 388 charniers ont été recensés par DCCAM, pour le moment, on ne connaît toujours pas l'emplacement exact ni le nombre de victimes qui y reposent pour une bonne partie d'entre eux. Avec un radar pénétrateur de sol de la taille d'une tondeuse, les équipes de Michael & Shaw tentent de cartographier le sous-sol et ses anomalies. Si cette technologie est encore en phase de rodage et rencontre quelques critiques, elle pourrait potentiellement fournir une première estimation du nombre de corps dans chaque tombe et permettre de prolonger le travail de recherche dans le futur.
So when we arrived, Quand nous sommes arrivés, les élèves ont posé beaucoup de questions. Ils étaient très intéressés par cette technologie. La chose la plus importante qu'il m'ait appris, c'était peut-être une manière plus respectueuse de documenter le site parce qu'ils ne veulent pas perturber le repos de ceux qui sont enterrés ici. Une fois que le sol scanné et le rapport rendu, le centre de documentation veut créer des lieux de commémoration. Surtout que beaucoup sont des écoles aujourd'hui. Les familles qui ont perdu des proches pourront venir se recueillir et les étudiants pourront savoir ce qu'il s'est passé précisément.
Et il faut dire que cette jeunesse représente un enjeu devenu central dans la transmission de l'histoire. Car au Cambodge, entre 65 et 75% de la population est née après le régime Khmer Rouge. C'est donc les jeunes qu'une nouvelle application veut toucher. Créée par le Centre de ressources audiovisuelles Bopana, fondé par le réalisateur Riti Pan, l'application Khmer Rouge History a été lancée il y a un an, en anglais et en Khmer. Alors que la période Khmer Rouge n'est inscrite au programme scolaire que depuis une dizaine d'années, cette application téléchargée par plus de 30 000 utilisateurs est un peu comme un manuel interactif pour smartphone. Elle propose des textes enrichis, des vidéos, des archives sonores ou d'autres documents de l'époque. Début janvier, un nouveau chapitre consacré à la résistance était présenté devant un petit auditorium bien rempli. Ya, une étudiante de 26 ans, en sort enthousiasmée, surprise du nombre d'auditeurs.
Je crois que l'information, c'est le pouvoir. En tant que Cambodgienne, même si ce n'est pas nous, c'est notre passé. Et nous avons besoin du passé pour nous ancrer dans le présent et nous saisir du futur.
Mies est plus jeune et vient, elle aussi, d'assister à la conférence.
C'est très grave. Comment des Khmers ont pu tuer des gens de leur propre peuple? Je ne croyais pas à ce qu'on nous apprenait au lycée. Quand ma grand-mère m'a parlé des Khmers rouges, des gens qui mouraient à cause d'eux ou de la faim, je lui ai dit, je n'y crois pas. Après mon entrée à l'université, j'ai compris que c'était bien arrivé dans mon pays, alors je veux en apprendre davantage.
Quand il s'agit des Khmers rouges notamment, pour beaucoup de jeunes Cambodgiens, voir, c'est croire, même confronté aux témoignages. Le parcours de cette étudiante de 20 ans fait ainsi écho aux objectifs de l'application décrit par Keo Duong, enseignant en histoire et coordinateur du projet. Ce soir-là, c'est lui qui présente le nouveau chapitre ajouté à l'application. Il a également formé plus de 400 professeurs de lycée cambodgien à utiliser cette application et à la présenter aux étudiants.
Parce que les étudiants aujourd'hui n'ont pas connu le régime, ils demandent parfois des preuves. Ils savent grâce à leurs parents, grâce aux manuels, mais ils ont encore besoin de preuves. D'après certains professeurs, des élèves leur demandent parfois où chercher des informations supplémentaires. Donc certains professeurs sont contents quand ils découvrent l'application et la recommandent aux étudiants.
Pour certains, accepter la réalité des atrocités commises par le régime du Kampuchea démocratique passe encore par l'image. Dans ce pays dont les intellectuels et les artistes ont été éradiqués sous les Khmers rouges, l'art reste donc un important vecteur de transmission de la mémoire du régime. En 2011, Tian sortait le premier tome de l'Année du Lièvre, une bande dessinée en trois tomes retraçant l'histoire de sa famille et notamment celle de son père pendant le régime du Kampuchea démocratique. Réfugié en France où il a grandi, la quête de son histoire et de son identité était d'abord un besoin personnel. Elle a trouvé un écho auprès des Cambodgiens à l'étranger ou chez ceux restés au pays. Traduite en Khmer, la BD s'est vendue comme des petits pains dès sa parution. Tian Bisna est né au Cambodge en 1975, l'année de la prise du pouvoir par les Khmers rouges.
Et je pense que l'album, ça symbolise un peu cette phase-là, c'est-à-dire l'envie de revenir aux origines. Et aussi partager mon témoignage aussi avec la jeune génération. Et c'est un support accessible, c'est un support, je trouve, adapté pour la jeune génération. Tout dépend de l'outil et tout dépend de la manière dont on transmet les choses. Et ça passe pas forcément par un monument aux morts ou des choses comme ça. Parce que la culture cambodgienne, elle est différente, parce que la mentalité est différente, et puis parce que le monde bouge et évolue. Et je pense que les artistes, ceux qui sont en phase avec cette évolution, ce mouvement en permanence, c'est eux qui arrivent à transmettre de façon plus simple et plus efficace, peut-être.
Kakadayi, lui, n'a connu ni les Khmers rouges, ni la guerre civile. Cet artiste cambodgien de 22 ans alterne entre toiles et fresques dans les rues de Phnom Penh.
Ici, c'est Sinsisamot. Là, c'est Uimia. Là, c'est Penron. Et Rusrei Soti. Elle, là, c'est Kai Shanti, une chanteuse contemporaine décédée récemment, qui a repris leur chanson.
L'une des dernières en date dépeint dans des couleurs vives des artistes populaires des années 60 et 70 disparus sous les Khmer Rouges.
Je peins pour que d'autres connaissent ces grands artistes décédés qui ont disparu sous le régime des Khmer Rouges.
Les représentations du passé sont récurrentes dans les motifs que Kakada peint sur ses toiles et dans les rues du Cambodge. Pour autant, il ne s'agit pas toujours d'allusions aux Khmer Rouges. Mais à travers cette œuvre de street art, Kakada expose à la vue et au-dessus de tous ces voix, ces visages que le régime Khmer Rouge a voulu faire oublier et qui se heurtent ici aux problématiques du Cambodge d'aujourd'hui. Kak Chanti, la chanteuse qui a repris leur chanson, est morte l'an dernier dans un accident de la circulation à Phnom Penh. Peinture, littérature, cinéma, aujourd'hui c'est encore peut-être la musique qui parle le plus aux Cambodgiens, aux adultes comme aux plus jeunes. Il y a 4 ans sortait par exemple une reprise visionnée plus de 17 millions de fois sur YouTube dans un pays d'environ 16 millions d'habitants, une reprise de ce même Sinsisamot peint par Kakadayi. Le son de Hago était produit par Clap Your Hands, un label de musique indépendant fondé par l'artiste Touchatou Sotvisal. Né à Phnom Penh en 1971, sa famille fuit le Cambodge à l'arrivée des Khmer Rouges. Il revient dès 1993 sur sa terre natale et s'y affirme peu à peu comme musicien, réalisateur et producteur.
J'étais en Thaïlande en fait, quand on a projeté In the Life of Music et une des questions qu'un Thaïlandais avait demandé, c'est pourquoi les réalisateurs cambodgiens font toujours des films sur les Khmer Rouges ? Moi, ma réponse, c'était que, on ne fait pas tous que des films sur les Khmer Rouges, et que les films qui parlent des Khmer Rouges, c'est souvent les films de Rik Thippan, et que Rik Thippan, c'est le réalisateur le plus célèbre cambodgien du monde, donc lui, il fait des films sur les Khmer Rouges, et lui, c'est très, très, très personnel, donc il faut qu'il en parle. Et il y en a d'autres qui commencent à parler de ça aussi, il y a quelques réalisateurs de ma génération qui commencent à parler de ça. Je pense que c'est normal pour nous, Cambodgiens, d'avoir cet élément Khmer Rouge dans nos histoires ou dans nos arts, parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ça s'est passé il y a 40 ans seulement, et que directement ou indirectement, on a tous été perturbé par ça.
L'artiste et producteur a produit bon nombre d'œuvres s'adressant au public cambodgien d'aujourd'hui. Il a notamment contribué à l'émergence d'une scène hip-hop et rap au Cambodge. Mais Sotvisal aussi apporte sa pierre à l'édifice en réalisant par exemple le film The Life of Music, dont l'un des chapitres se passe sous le régime Khmer Rouge, ou en produisant des chansons comme celle d'Ago, qui en transformant les classiques touche cette jeune génération.
Si on n'en parle pas, si on ne le mettait pas dans les éléments, dans notre art, dans nos peintures, ou dans nos clips, ou dans nos musiques, on n'en parle pas dans nos films, les jeunes ne sont jamais ce qui s'est passé en 75. Le fait d'avoir samplé des chansons Khmer des années 60, 70, de les mettre dans mes mix hip-hop et de faire des remakes, c'est exactement ça. C'est la mémoire, c'est dire aux jeunes, hey, les jeunes, si vous aimez ces chansons, c'est une vieille chanson. Le fait d'écouter une nouvelle version, ça leur donne envie d'écouter cette nouvelle version, mais en plus, il y a aussi ce travail de recherche pour essayer de trouver l'original. Et c'est vachement important que les jeunes sachent que, dans le passé, on avait une scène musicale qui était superbe. Et pareil pour les films, ça a été coupé, stoppé à cause des Khmer Rouges. Donc le travail MMA, ouais, c'est important pour ma génération et pour la génération qui viendra après. Après, ce qui se passera dans 20, 30 ans, je ne sais pas du tout.
D'autres artistes de ces nouvelles générations prennent le relais. Ils insufflent des hommages dans leurs œuvres à travers des reprises de chanteurs disparus, intègrent des visages ou des objets de leurs proches survivants ou victimes du régime. Ils laissent des traces, les mêlent aux codes du Cambodge d'aujourd'hui, dont certains aimeraient qu'on parle davantage. Pourtant, dans l'intimité des foyers cambodgiens, qu'on taise ou qu'on raconte son histoire, l'encens continue de brûler pour honorer la mémoire des ancêtres. Khmer Rouge, la mémoire en construction, un grand reportage de Juliette Buchez, réalisation de Pierre Chaffangeon.